Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en ligne pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Nous sommes ravis de pouvoir maintenir ces rencontres malgré la pandémie et le confinement. Et je remercie d'entrée de jeu d'ailleurs toutes les équipes techniques de la Bibliothèque publique d'information qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir ces rencontres. Alors, comme d'habitude, on va parler d'actualité dans ces rencontres. Et ce soir, on va être particulièrement sur des questions d'actualité, puisque c'est vraiment un événement qui nous touche tous et toutes au quotidien, puisqu'on va parler de la pandémie qui nous oblige à être confinés chez vous, comme vous allez le voir avec tous les intervenants de ce soir. Alors, on va parler de la COVID-19, mais pas uniquement de la COVID-19, enfin, pas précisément de la COVID-19. On va surtout parler de comment les chercheurs, les équipes scientifiques s'organisent face à cette pandémie pour essayer de la faire reculer, comment on s'organise localement, nationalement, peut-être internationalement, comment aussi montrer aussi ce qui marche ou ce qui n'a pas marché dans cette organisation scientifique. Et on va aussi parler médiation, puisque face aux rumeurs, aux fausses informations, il serait important d'évoquer la manière dont on parle de cette maladie, en particulier vers les publics les plus jeunes. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement nos partenaires de ce soir, que sont l'INSERM et l'Arbre des connaissances. Et puis, bien sûr, je remercie chaleureusement nos intervenants, France Mintré, Valérie Lallemand, Éric Dossio. La rencontre sera animée par Benoît Canton et je les remercie tous dans cette période où je sais qu'ils sont tous mobilisés à 200% d'avoir pris, dégagé un peu de temps en tout cas pour être disponibles ce soir et parler de leur métier, de leur recherche. Alors bien sûr, vous pourrez poser des questions en direct via le chat de Facebook. Nous pourrons en prendre quelques-unes pour les poser directement à nos intervenants. Benoît, je vous présente, puisque c'est vous qui avez animé cette rencontre. Donc, Benoît Tanson, vous êtes journaliste scientifique à The Conversation France et vous êtes responsable de la rubrique Science. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre en ligne. J'aurais aimé échanger avec vous de visu, mais ça sera aussi l'occasion de pouvoir dialoguer avec les personnes loin de la capitale. Donc, bienvenue encore. La pandémie de COVID-19 nous a déjà appris beaucoup sur nous-mêmes, sur nos capacités de résilience et d'entraide, sur les limites. En mettant en lumière, s'il le fallait, le travail extraordinaire des soignantes et des soignants. De leur côté, les scientifiques n'ont pas ménagé leurs efforts depuis l'apparition de la pandémie afin de la comprendre, chercher les traitements, les vaccins. Finalement, si la science a cumulé énormément de connaissances sur le virus en très peu de temps, on peut également s'interroger sur ce que la pandémie a appris à la science. Son organisation, sa communication, sa rapidité, ses liens avec la politique et le grand public. Ce sera donc l'objet de notre rencontre. Pour répondre à mes questions, mais également aux vôtres, j'ai à mes côtés France Mantré, professeure de biostatistique à l'Université de Paris et à l'hôpital Bichat. Elle est la responsable méthode de l'étude. France Mantré, bonsoir.
Bonsoir.
Un peu plus sur cet essai Discovery, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Donc, l'essai Discovery est un essai qui a été promu par l'INSERM, qui s'est mis très, très rapidement en place. Et donc, ça a été un travail extraordinaire de toutes les équipes, surtout de Bichat au départ, pour très rapidement, dans cette pandémie, qui à l'époque n'était pas encore une pandémie d'ailleurs, évaluer des médicaments qu'on dit repositionnés, c'est-à-dire des médicaments qui étaient développés pour d'autres pathologies infectieuses que la COVID. Et on a très, très vite mis en place cette étude pour comparer ces traitements entre eux et aussi à une prise en charge optimale, mais sans traitement antiviral.
Également avec nous, Éric d'Ortenzio, médecin et spécialiste en santé publique à l'INSERM. Éric d'Ortenzio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le coordinateur du consortium REACTING. Même question, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce projet, s'il vous plaît?
Oui, alors le REACTING est un consortium qui regroupe diverses institutions de recherche françaises et des laboratoires d'excellence dans diverses disciplines. Donc ça va des mathématiques à la modélisation, à la recherche clinique, la virologie, l'immunologie, la santé publique, les sciences humaines et sociales. Donc c'est vraiment multidisciplinaire et multi-institutionnel avec des organismes représentés de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, de l'IRD, du CNRS et encore d'autres. Et tous ces laboratoires travaillent sur le même sujet que sont les maladies infectieuses émergentes. Donc ce consortium REACTING existe depuis quelques années, depuis 2013, et a travaillé sur diverses épidémies de par le monde, telles que les épidémies d'Ebola, les épidémies de Zika, les épidémies de peste, et donc plus récemment, cette épidémie pandémie de Covid. Et le but de la mission de ce consortium, c'est d'essayer de fédérer et de coordonner la recherche française sur les maladies infectieuses émergentes pour essayer de faire émerger des projets de recherche pertinents et de faire travailler les gens ensemble pour avoir voilà, une bonne représentativité et non pas une dispersion dans les nombreux projets de recherche qui puissent se monter. Donc c'est vraiment quelque chose qui aide, qui fédère, qui accélère aussi la recherche parce qu'on peut proposer parfois des financements. Donc c'est un peu un accélérateur de la recherche et une coordination de différents laboratoires. Voilà comment on peut le définir REACTING.
Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Lallemand, directrice de recherche en biologie cellulaire et cancérologie à l'INSERM. Valérie Lallemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également la présidente de l'Arbre des connaissances, une association de vulgarisation scientifique. Pouvez-vous nous la présenter rapidement?
Alors oui, l'objectif, disons, l'Arbre des connaissances est une association de scientifiques, comme vous l'avez dit, chercheuses, chercheuses nationales, qui regroupe environ 4 à 500 scientifiques engagés pour ouvrir la science aux citoyens, et en particulier en ciblant les jeunes à partir de 13 ans, avec deux ambitions principales. La première, qui est celle d'intéresser les jeunes aux sciences, et tous les jeunes, c'est-à-dire de renforcer aussi la légitimité à s'intéresser aux sciences, indépendamment de l'utilité scolaire des sciences, c'est-à-dire quel que soit leur niveau scolaire et quelles que soient leurs origines culturelles, sociales, religieuses, etc. Mais voilà, d'avoir cet intérêt à cultiver, disons. Et le deuxième objectif, c'est de contribuer à l'éveil de leur esprit critique. Et donc voilà, on a différents dispositifs pour tenter d'aboutir sur ces deux objectifs.
Merci, encore bienvenue à tous les trois. Et maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du débat et pour essayer de comprendre ce que la pandémie a appris à la science. Je vais commencer avec vous, Eric d'Ortenzio. Vous qui avez eu la charge d'organiser la recherche scientifique autour de la COVID-19, que retenez-vous de cette mise en place? Est-ce aisé de mutualiser les forces scientifiques dans notre pays?
La question est difficile, mais c'est vrai que peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que le plus difficile dans ce genre de pandémie et de moments qui sont particuliers, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu notre cœur de métier à Reacting depuis quelques années, mais on l'a vu là pendant cette. Notamment au début et même après, qu'il était essentiel qu'on puisse mutualiser des forces pour essayer de monter des projets d'envergure nationaux, voire internationaux. Et Discovery est un très bon exemple, et France va le décrire. Et c'est vraiment ça qui a été assez capital. Donc, je dirais pas que c'est pas le plus difficile, mais en tout cas, c'est ce qui est très important. On a pu voir, on a pu constater au fil des semaines et des mois qu'il y a eu de nombreux essais cliniques, par exemple, qui se sont mis en place, parfois qui évaluaient peut-être le même traitement et on aurait peut-être pu mieux faire à un moment donné pour réguler ces essais cliniques. Voilà, c'est sur ça qui est, c'est sur ça qu'on doit travailler, qu'on est actuellement en train de travailler, et c'est peut-être une des difficultés majeures qui a été observée en cette première partie d'année sur la coordination et la régulation des essais cliniques.
Et bien justement, France Montré, parlons des essais thérapeutiques. Pour vous, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face, et étions-nous prêts à relever un tel défi?
Alors, je vais commencer par la dernière partie de votre question. Étions-nous prêts à relever un tel défi? J'ai l'impression que oui. Reacting, l'INSERM, on a mis en place ce très grand essai Discovery qui continue à inclure. Là, il y a plus de 1000 patients. On est français avec 35 centres en France, dans toute la France, tout le territoire national et aussi ultramarin. Et on a maintenant 4 pays qui incluent activement, et on travaille avec l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie pour les inclure dans notre étude. Donc je crois qu'effectivement, l'INSERM, Reacting et nous, les équipes autour de moi et d'Eric, on était prêts à relever ce défi. Alors les difficultés. La première difficulté, c'était de savoir quelle méthodologie on devait utiliser. Est-ce que sous prétexte qu'on est dans une pandémie, on peut s'affranchir des grandes règles de la méthodologie de l'évaluation des médicaments? Et la règle numéro un, c'est de se comparer à quelque chose. Et comme vous le savez, d'autres personnes n'ont pas utilisé cette technique et ont évalué des médicaments de manière non totalement académique. Et ça, ça a été une des premières difficultés, qui était de savoir pourquoi nous, on avait une telle rigueur et d'autres ne l'avaient pas. Et surtout que ces autres personnes pensaient avoir trouvé un médicament efficace. Et il a fallu donc un peu expliquer pourquoi nous, il fallait quand même qu'on évalue notre médicament. Ça, ça a été la première difficulté, une grosse difficulté quand même, pour les patients, pour les cliniciens. L'autre difficulté, ça a été, comme Eric l'a appelé au début, le fait que, au départ, on était les premiers, on était prêts parce que, grâce à Reacting, mais après, assez vite, beaucoup de collègues ont voulu évaluer des médicaments. Et donc, on s'est trouvé un petit peu en compétition, même au sein de la recherche française, ce qui a vraiment été dommage. Bon, et la troisième, c'est qu'effectivement, on n'avait pas de médicaments à évaluer spécial sur le Covid. Donc, on a utilisé des médicaments qui existaient déjà. Et donc, il y a déjà 3 traitements qu'on a dû arrêter par manque d'efficacité. Donc ça, ce n'est pas une difficulté de nous, hein, c'est une difficulté inhérente quand arrive un nouveau virus. On n'a pas le lendemain matin des médicaments efficaces.
Voilà, peut-être pour compléter ce que vous disiez, quels ont été les médicaments que vous avez testés?
Alors effectivement, on a testé, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a testé l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui était au départ dans le PALU. On a testé le lopinavir accompagné du ritonavir, qui est un médicament qui est donné dans le VIH, le sida. On a testé ce lopinavir-ritonavir associé à de l'interféron bêta, qui est un anti-modulateur, enfin un immunomodulateur, on va dire. Et puis le remdesivir, qui est un médicament au départ développé dans Ebola, qui est donné par voie injectable et qui est encore le seul médicament qu'on continue à évaluer. Actuellement, on continue à évaluer l'efficacité du remdesivir.
D'accord. Et justement, là, vous faisiez mention de certains scientifiques qui sont un peu, sont passés un petit peu affranchis des règles scientifiques et qui ont été très très médiatisés. Justement, là, Valérie Lallemand, je me tourne maintenant vers vous en tant que spécialiste de la vulgarisation et de la communication scientifique. J'aimerais avoir votre regard sur la médiatisation de la recherche vis-à-vis de cette maladie. Alors, 2 points, est-ce que les scientifiques ont réussi à bien faire passer leur message, et de l'autre côté, le grand public était-il suffisamment armé pour faire le tri dans ce flux d'informations pléthoriques?
Alors, est-ce que les scientifiques ont bien fait passer leur message? Tout dépend des scientifiques dont on parle. Il y a une quantité assez impressionnante, à mon sens, d'initiatives qui ont vu le jour pour justement bien sortir de sa logique de laboratoire et disons, sortir de son champ aussi, qui est celui des pairs qui parlent aux pairs. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives, je peux vous en citer deux, mais il y en a beaucoup, hein, comme Diffusons la science, pas le virus, donc, qui vient d'équipes marseillaises, comme Adios Corona, d'équipes plus provenant de laboratoires divers, CNRS, INSERM, universitaires, avec ce but de vulgarisation, pour répondre à différentes questions. Le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a répertorié l'ensemble de ces initiatives, en tout cas celles qui ont répondu à leur appel. Par ailleurs, il y a les sites institutionnels, évidemment, la recherche de l'INSERM, la recherche du CNRS, d'autres des universités, les régions. Donc, je crois que côté scientifique, il y a eu beaucoup de choses qui ont en tout cas essayé d'émerger pour faire comprendre la recherche en cours, mais aussi pour avoir plus généralement des notions de biologie, sur le virus, sur ce qu'est un ARN, puisque ce virus est un virus à ARN. Un certain nombre de notions importantes pour la culture scientifique, je dirais de base, de façon à comprendre les enjeux actuels et aller un peu plus loin. Maintenant, du côté, évidemment, ces sujets-là peuvent aussi être embolisés par des personnages extrêmement médiatisés, donc très audibles, visibles, à juste titre ou pas, peu importe, mais on a beaucoup entendu les mêmes quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, qu'on lit la presse, et sur le coup, c'est aussi ce qui s'est retrouvé sur des réseaux sociaux. Mais je crois qu'il y a deux niveaux d'information. Il y a l'information scientifique qui est accessible à des buts, je dirais, de vulgarisation pédagogique par divers acteurs de la recherche qui ne sont pas forcément ceux qui sont très médiatisés. Et puis, il y a des grandes figures. De l'autre côté, comment les gens, eux, ont accueilli et pouvaient faire le tri dans toutes ces informations ? Eh bien, moi, je vous répondrai qu'une crise, ça ne révèle rien d'autre que des besoins qui existent de toutes les façons. Donc, ce que l'on a vu là, c'est le reflet d'un besoin justement de lien entre la science et la société qui existe et pour lequel y répondre peut ne pas se faire simplement dans un temps de crise et dans une situation de crise. Donc il faudra peut-être dépasser justement, et c'est ce que cherchent à faire beaucoup d'acteurs de la médiation scientifique, justement dépasser le contexte simplement de la crise.
Pour aller un peu plus loin sur c'est vrai que cette pandémie a bousculé tout bousculé, le temps médiatique, scientifique, politique, tout s'est télescopé. Éric D'Ortenzio, je peux me retourner vers vous. Est-ce que finalement vous avez ressenti une énorme pression vis-à-vis de la part du politique, et est-ce que ça a eu un effet délétère sur la recherche?
Alors, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que le temps politique n'est pas le temps scientifique. Il est vrai que les politiques, en termes de gestion de la crise, ont parfois besoin de réponses très rapides à des questions en suspens. Et donc, malheureusement, la mise en place d'études, d'essais cliniques sont d'une certaine complexité. Et Discovery, encore une fois, est un très bon exemple. On ne peut pas avoir des résultats rapidement, comme l'espéreraient certains politiques, ministères, pour répondre à la crise en disant voilà, on a trouvé tel traitement, on a trouvé tel vaccin. On est déjà dans une accélération incroyable de la recherche. Discovery a été mis en place à peine quelques semaines après les premiers cas diagnostiqués en France. Les essais vaccinaux donnent, aujourd'hui, on a des premiers résultats d'essais de phase 3, alors que nous sommes à peine à 8 mois de la découverte du coronavirus et de la séquence génétique. Donc, c'est quand même une accélération incroyable. Et malgré ça, c'est vrai qu'on a pu ressentir parfois des pressions, ou en tout cas des demandes pour essayer de répondre à des questions pour lesquelles on n'avait pas encore de réponse, mais parce qu'il faut le temps des inclusions, le temps des analyses, le temps de la rédaction, etc. Donc, il est évident qu'on n'a pas le même temps, et c'est peut-être ça qui est difficile parfois à faire comprendre aux politiques qui ont besoin de réponses rapides quand ils sont sur une crise de cet ordre-là qui est inédite. Alors, c'est vrai, mais voilà ce que je peux dire sur cet aspect-là.
France Montret, j'aimerais votre avis aussi sur cette même question. Alors, vous qui étiez sur qui cherchiez un traitement, là, vous avez dû être soumis à une pression colossale.
Alors, pression, oui. Et il se trouve qu'effectivement, il y avait quand même une couche entre moi et les politiques. Donc, je la ressentais indirectement. J'étais un peu préservée à ce titre-là. Mais pression, oui, parce qu'effectivement, il fallait que Discovery trouve un traitement très rapidement. Et surtout, il y avait des personnes qui disaient que Discovery donnerait des résultats très rapidement. Je dois dire que si un traitement avait très, très bien marché, enfin, avait sauvé 100% des vies, c'est sûr qu'on l'aurait vu très, très rapidement. Mais dans l'histoire des maladies infectieuses, je crois qu'on n'a jamais trouvé en 2 mois un traitement qui sauvait 100% des vies. Et donc, effectivement, il y a eu peut-être un espoir comme ça de personnes qui se sont dit « Ah ben voilà, on va le trouver très rapidement ». Donc, c'est sûr qu'il y a eu cette pression politique. Il y a eu des découragements de la part de l'équipe. Il y a eu des découragements aussi des médecins investigateurs, parce que c'est des médecins hein, qui incluent des patients dans les études et qui évaluent les traitements, puisque chacun… Il y allait un peu de « moi je crois en A, moi je crois en B, moi je crois en C ». Et donc effectivement, des difficultés par rapport à cette différence de temps, de perception, comme l'a très bien dit Eric, le temps de la recherche ou le temps de l'évaluation de médicaments, de l'évaluation de vaccins, par rapport au temps, et qu'on comprend bien des politiques qui doivent prendre en charge une population qui s'infecte de plus en plus.
Je reste avec vous. Justement, là, le but de notre table ronde, c'est de savoir ce que la pandémie a appris à la science. Si là, il fallait tout recommencer, etc., est-ce que vous feriez des choses différemment? Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, si on parle encore une fois de mon expérience qui est sur l'évaluation de médicaments, il y a un grand exemple qui est quand même l'exemple de l'Angleterre, où eux, ils sont partis beaucoup plus, j'allais dire, de manière militaire. Ils n'ont fait qu'une seule énorme, énorme étude et ils ont déjà produit plus de résultats, j'allais dire, que ce que la France a produit en centralisant. Et je crois que c'est ce que disait Eric. Nous, on a laissé les chercheurs et les scientifiques évaluer différents projets et à un moment, il y a eu trop d'essais cliniques en France. Il y avait plus d'essais presque que de patients ou de centres. Et donc, je pense qu'il y avait l'absence d'un organe régulateur. Mais justement, je crois que la pandémie a appris ça. Et Reacting, l'INSERM, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche sont en train de mettre en place ce fameux, une nouvelle agence qui sera plus régulatrice pour mieux prioriser à quelles questions on veut répondre. On ne peut pas, on n'est pas un très grand pays, on est un très grand pays, mais pas si grand, répondre à trop de questions à la fois et évaluer trop de médicaments à la fois. Et je pense que ça a été une erreur.
D'accord, et c'est peut-être ça qui aussi n'a pas été bien compris par le grand public. Donc Valérie Lallemand, là je me retourne vers vous. Et j'aurais aimé votre point de vue sur comment on arrive à mieux faire passer des notions de controverse scientifique en fait, parce que j'ai l'impression que cette crise a aussi montré une certaine méconnaissance de la démarche scientifique chez le grand public. On a un peu confondu controverse et débat. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît?
Oui, alors tout à fait. Je crois que dans le temps de la recherche, en fait, on doit inclure justement la notion de controverse scientifique. Dans le temps de la recherche, il y a globalement 2 grandes étapes. La première qui est, pour ce qui est de la démarche pour la recherche expérimentale, mettre son idée, son hypothèse à l'épreuve d'une expérience, qui nous permettra de déterminer l'exactitude d'une proposition ou son inexactitude. Mais le deuxième temps qui est tout aussi important, c'est l'adhésion par les pairs. Et qui dit adhésion par les pairs dit aussi d'être challengé par nos pairs, d'être, d'avoir un regard critique de nos pairs sur notre recherche en cours. Et ce n'est que lorsqu'on a achevé ces 2 étapes, donc quand on a répondu à un certain nombre de questions de nos pairs, que l'on peut véritablement produire collectivement un nouveau savoir scientifique. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, dans ce qui s'est passé, enfin, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait un mélange finalement de cette perception de la controverse scientifique qui est tout à fait normale. Peut-être qu'elle a pris, évidemment, d'un point de vue médiatique, beaucoup de place, mais néanmoins, elle, encore une fois, elle fait partie du processus, et un mélange avec justement la notion de décision politique qui a été évoquée, et qui est là de l'ordre du débat public, c'est-à-dire comment, en tant que citoyen, quel impact ces différents résultats de la recherche peuvent avoir dans ma vie, dans mon quotidien, et on l'a vu à différentes échelles. Et là, on passe au niveau du débat public. Mais il y a une confusion énorme entre les deux. Et précisément, pouvoir distinguer ce qui est la démarche scientifique du débat public est un des enjeux de l'arbre des connaissances, hein. Et pour cela, on a deux grands dispositifs. Le premier, qui s'appelle apprenti-chercheur, où on met au contact des élèves du secondaire en binôme avec des chercheurs sur une année scolaire pour réaliser un programme de recherche, un petit projet de recherche. Ça s'articule par des partenariats entre des centres de recherche et des établissements scolaires de proximité. Et donc, on a une logique territoriale pour aussi que les gens comprennent, que les laboratoires puissent ouvrir les portes des centres de recherche au territoire dans lequel ils sont inscrits. Et ce, pas de façon ponctuelle, pas simplement pour la fête de la science, mais au long cours, pour vraiment pouvoir entrer dans le processus de la démarche scientifique, la démarche de recherche, se rendre compte que les jeunes puissent se rendre compte du temps que cela prend, de la nécessité des contrôles. Il a été évoqué aussi la notion de comparaison. En science, on ne peut pas dire que quelque chose la science n'a pas valeur d'absolu, elle est toujours relative à quelque chose. Donc très, très précisément, c'est ce que les jeunes peuvent toucher du doigt dans le cadre de ce dispositif apprenti-chercheur. Et puis on a un autre dispositif qui est sur l'éveil au débat science-société qui s'appelle jouer à débattre, et donc avec des compétences qui sont finalement assez différentes.
Je rebondis là sur ce que vous dites. Justement, apprendre le métier de chercheur aux plus jeunes, est-ce que c'est pas ça, du coup, qu'on s'est... on a l'impression qu'on va s'adresser aux sachants, et donc il va falloir des réponses. Donc, Eric D'Ortenzio, est-ce que les scientifiques doivent aussi dire « on ne sait pas et laissez-nous le temps de la recherche », est-ce que c'est entendable, ça, par le grand public?
Ah oui, je crois qu'il faut être complètement honnête et transparent sur ces questions-là. Et puis, ce SARS-CoV-2 en est un bon exemple. On voit bien qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure. On a parfois eu des messages contradictoires de la part des gouvernements sur des mesures de gestion, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que... Quand il y a une émergence d'un pathogène, d'un virus comme le coronavirus, il y a plusieurs étapes pour la connaissance. Donc, on va apprendre au fil des mois, au fil des études qui se mettent en place. Et je crois que cette pandémie nous montre qu'il faut rester humble et modeste par rapport à ces virus et à ces connaissances, hein. On a encore beaucoup d'inconnus. On a appris beaucoup de choses, hein, jusqu'à présent, mais on a encore beaucoup d'inconnus. On a encore pas mal de choses à connaître sur le système immunitaire des patients qui sont infectés. Est-ce que ce virus va nous protéger longtemps ou pas longtemps? On a encore beaucoup de choses à connaître sur les complications qui puissent arriver à moyen et long terme. Donc, oui, on va avoir des réponses au fur et à mesure, mais si on n'a pas la réponse au moment où on nous pose les questions, il faut savoir dire c'est en cours ou on ne sait pas encore. Il y a telle ou telle recherche qui est en place qui va permettre de répondre à telle question. Voilà, donc moi, je suis plutôt partisan de dire on ne sait pas quand on ne sait pas, effectivement.
Justement, c'est vrai qu'il y a eu énormément de recherches et une rapidité folle, et d'ailleurs une des tombereaux de publications. D'être franchement très, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que c'était finalement la meilleure chose à faire de publier rapidement, sans forcément la relecture par les pairs
Alors effectivement, vous parlez, peut-être pour plus préciser, d'un phénomène qui s'est énormément accentué là pendant cette pandémie Covid, qui est le dépôt de manuscrits sur des archives en ligne, complètement ouvertes, publiques. Il y avait depuis longtemps BioArchive et maintenant il y a MedArchive. Et là, effectivement, ce n'était pas quelque chose dont on avait l'habitude, au moins dans la recherche clinique, peut-être plus dans la recherche fondamentale. Et c'est fait qu'on peut déposer sur ces sites plus ou moins n'importe quoi, excusez-moi pour le mot. Et effectivement, c'est très difficile après de savoir, et ce n'est pas été reviewé par les pairs. En revanche, c'est disponible beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est une question très, très difficile. Voilà. Doit-on donner accès à toute la connaissance tout de suite, sans qu'elle soit critiquée, ou les scientifiques doivent-elles auparavant s'assurer que la science soit bonne avant de la rendre disponible au grand public? Et j'ai pas de réponse univoque à votre question. Parfois, je me dis, ah ben non, c'est trop tôt pour le dire. Et parfois, je me dis, autant laisser le public choisir si c'est bien ou pas bien. Mais ça revient un peu à ce qu'a dit tout à l'heure Valérie, c'est que c'est assez difficile parce que le grand public en général ou le public n'est pas scientifique. Et c'est tellement facile de faire dire des choses fausses à des chiffres. Hein, c'est un peu mon métier, pas de dire des choses fausses, mais de voir si les gens disent des choses fausses et de leur dire des choses exactes. Qu'effectivement, on a du mal parfois à se dire qu'il ne faudrait pas mettre un filtre. Moi, je pense qu'un filtre est utile. Et peut-être qu'on devrait avoir un lieu où on partage publiquement l'information entre scientifiques. Mais alors, vous allez me dire, c'est où la limite? Et effectivement, je n'ai pas la réponse à votre question non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a parfois des gens qui sont saisis de résultats qui finalement étaient inexacts.
D'ailleurs, on peut toujours rester avec vous. C'est vrai que vous avez toutes et tous énormément travaillé là, ces derniers temps. Comment vous pouvez tenir là, sur la longueur finalement?
Eh bien, c'est une bonne question. On se pose parfois la question. Je crois qu'il y a le fait de travailler en équipe. Je veux dire, par exemple, Eric, Reacting, les gens avec qui je travaille, je les connais depuis, on a travaillé ensemble sur Ebola, sur Zika, etc. Donc, on se connaît, on s'apprécie, on s'estime et il y a des liens amicaux qui se sont créés au sein des équipes. Puis, il y a cette urgence de santé publique. On ne peut pas se mettre de côté et se dire qu'on va se reposer. C'est une hygiène de vie quand même, d'essayer de se déconnecter. Moi, par exemple, maintenant, depuis la rentrée, j'essaie de ne pas faire de mail le soir après 22 heures. Bon, en échange, je commence à 6h30 du matin, mais voilà. Bah, je crois qu'on... Je ne sais pas, on tient par... Je ne sais pas. C'est important, je veux dire, on tient aussi, alors je sais, on tient aussi à cause des médecins et des réanimateurs. Quand vous voyez ce qui se passe dans les réa et dans les services, les aides-soignants, etc., eux, ils sont au quotidien devant les patients, ils ne se posent pas la question, tiens, je suis fatigué, donc moi, je ne vais pas me la poser non plus.
Pouvez-nous raconter un petit peu le lien que vous entretenez avec les médecins, finalement, quel est le rôle du scientifique par rapport aux médecins?
Alors, moi, je suis statisticienne, hein, biostatisticienne. Donc, tous les résultats que j'analyse, c'est des résultats qui ont été obtenus par des médecins qui ont observé des patients. Et donc, en plus des résultats qui rentrent dans une base de données, il y a aussi toute leur impression et, sur la prise en charge de la maladie. Par exemple, comme disait Eric, même si on n'a pas trouvé de médicament antiviral efficace, on a énormément progressé sur la prise en charge de la maladie. C'est-à-dire que le taux de mortalité des patients a diminué à l'hôpital, alors même qu'on n'a pas encore trouvé d'antiviral efficace. Et donc cet échange est très important parce que nous, ça nous fait modifier la manière dont on évalue les traitements. Et maintenant, effectivement, les patients qu'on évalue ne sont pas les mêmes que ceux qu'on évaluait au début de la pandémie. Et donc il y a un aller-retour constant sur quels médicaments faut évaluer, comment faut les évaluer et ce que les cliniciens voient au quotidien. On a une réunion au moins une fois par semaine, qui était justement là aujourd'hui à 17h, avec les cliniciens de l'étude, les virologues, les pharmacologues, toutes les semaines, pour comprendre ce qui se passe. Et au début de l'essai, on avait une réunion tous les jours à 17h, week-end compris. Pendant tout le mois de mars, c'était tous les jours, mois d'avril, trois fois par semaine, etc. Un échange constant avec les médecins, réanimateurs, virologues, pharmacologues, statisticiens.
Éric, peut-être que vous voulez...
Je voulais peut-être compléter par rapport à ce que dit France, que ça se passe au sein des hôpitaux, ces échanges qu'elle vient de décrire, mais ça se passe aussi également au sein de Reacting, que je vous ai expliqué en deux mots tout à l'heure, mais on a plusieurs groupes de travail au sein de Reacting, et justement, ce qui est très important, c'est de rassembler des gens de différents horizons, donc les cliniciens qui prennent en charge les patients, les virologues qui font le diagnostic, les immunologistes qui vont regarder la réponse immunitaire, etc. Et donc de rassembler ces gens-là sur une thématique, par exemple sur la question de la thérapeutique, sur la question de la transmission du virus, sur différents sujets d'importance pour lesquels il y a encore des questions, de les mettre ensemble, qui puissent échanger leurs avancées sur leurs projets. Et parfois, il y a des liens qui peuvent se créer. Ça peut créer aussi l'émergence d'un nouveau projet sur une question inattendue. Donc, c'est vraiment très important de rassembler ces gens de différents horizons. Et c'est ça qui crée en fait la force ensuite de la recherche scientifique, je dirais.
Moi, j'aurais aimé aussi parler de comment on peut communiquer toutes ces informations au plus jeune public. C'est-à-dire là, ils sont retournés à l'école, on leur demande de mettre des masques, etc. Peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien tout ce qui se passe. Valérie Lallemand, vous qui avez plus l'habitude de ces questions, comment aider le jeune public justement à comprendre.
Alors pour le public jeune, il y a un véritable enjeu qui est évidemment celui de l'éducation, et de l'éducation aux sciences. Donc encore une fois, notre façon d'agir, nous justement, c'est pas de courir après la crise en permanence pour répondre aux questions de crise. Donc évidemment, je suis là avec vous, vous allez dire, pourquoi vous êtes là alors? Parce que précisément, ce qu'une crise révèle, encore une fois, comme je le disais précédemment, ce sont des besoins constants qui existent. Et le besoin qui existe, c'est un, de bien comprendre la démarche scientifique, de comprendre la distinction entre la science, la médecine, l'usage de la science à des buts thérapeutiques, technologiques, etc. Et de comprendre toutes ces distinctions permet aussi de mieux comprendre quels sont les différents degrés de pénétration de cette science dans notre quotidien, et en même temps de comprendre concrètement pourquoi ça avance pas aussi vite, pourquoi est-ce qu'on me demande de porter un masque, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors il y a vraiment la méthode qui est très importante, et puis il y a évidemment le lien avec l'éducation et donc avec les enseignants, et en particulier les enseignants de secondaire. Donc ce que nous tentons de faire dans le cadre de la pandémie, on a évidemment essayé de répondre aussi à ce lien science-société et à ce lien vers les enseignants avec des petites actions qu'on a pu faire à la hauteur de nos moyens, comme bien d'autres, évidemment. Mais surtout, ce que l'on essaie de faire, c'est de rapprocher des enseignants et des scientifiques, et aussi d'un troisième, je dirais, troisième acteur, qui est celui du milieu culturel. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'on est aujourd'hui à la bibliothèque du centre, à la bibliothèque publique d'information. Eh bien, c'est précisément parce que la science a aussi un rôle à jouer et à sa place dans des lieux culturels. Et donc ce sont aussi ces publics-là, je dirais qu'il faut, on parle souvent des publics et pas du public, il y a les jeunes, mais il y a les enseignants et les professionnels de la culture. Et donc c'est aussi ces gens-là qu'il faut pouvoir toucher et avec lesquels il faut pouvoir échanger. Je ne vais pas être trop longue dans mes réponses, donc dites-moi si j'ai répondu à votre question.
C'est parfait, merci. Justement, sur ces questions de communication scientifique, tous les deux, Éric d'Ortenzio et France Montré, vous avez vous avez dû communiquer beaucoup, j'imagine. Est-ce que vous vous sentiez justement prêt à le faire? Comment ça s'est passé là, pendant cette première vague et maintenant cette deuxième vague? Est-ce que vous sentez qu'il y a des différences dans le traitement médiatique? Comment vous êtes reçu par les journalistes? Peut-être Eric pour commencer.
Préparé, je crois que non, on n'était pas vraiment préparé, hein, mais c'est vrai que c'est une question après d'expérience et d'habitude. Alors les premières fois, c'est pas évident et on apprend en marchant, je dirais. Mais ce qui est important dans ces moments-là, c'est-à-dire ce que disait Valérie, il faut être voilà, il faut essayer d'avoir un message le plus clair possible et le plus explicatif, je dirais. Pour essayer de faire comprendre ou de faire passer un message à la majorité d'entre nous sur des résultats scientifiques. Alors, est-ce que ça a changé entre aujourd'hui et au début? Je pense, parce qu'on a vu que finalement, il y avait certains scientifiques qui ont un peu monopolisé ou en tout cas qui étaient très régulièrement invités sur les plateaux. Maintenant, c'est vrai qu'il est quasiment normal d'inviter un scientifique ou un médecin pour parler de la pandémie. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant Covid. Hein. C'était rare qu'on soit invité sur les plateaux, sauf crise exceptionnelle ou pour parler d'une pathologie particulière, etc. Donc, oui, ça a changé, c'est sûr. Maintenant, malheureusement, je crois que la communication des scientifiques n'a pas toujours été bonne, il faut le dire. Voilà, ça prend, hein, c'est un métier aussi, je pense. Il faut qu'on s'améliore tous, que ce soit les scientifiques, peut-être aussi les journalistes scientifiques, les journalistes grands médias, les chaînes d'information, etc., pour voilà, avoir sur des plateaux des gens pertinents et qui vont annoncer ou faire passer des messages qui sont compréhensibles et qui sont cohérents avec les résultats. Voilà.
Est-ce que des France Montré, est-ce que des mauvaises communications, ça peut avoir des impacts sur la recherche, je pense, sur les traitements notamment?
Alors, bon, déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, on n'était pas préparé. Enfin, moi, je n'avais jamais eu cette occasion. Et d'ailleurs, assez vite, je me suis aperçu que ce n'était pas l'endroit où j'étais à l'aise, ni bien, ni communiquer clairement. Et donc, j'ai accepté votre invitation aujourd'hui parce que c'est un lieu où on échange et c'est la Banque publique d'information. Ce n'est pas, BFM TV. Peut-être que je n'aurais pas le droit de dire ça, mais voilà. Donc, effectivement, je me suis mis assez vite en retrait d'endroits comme ça, très médiatiques et tout, où on vous fait dire ce que vous ne voulez pas dire. Enfin voilà, on ne peut pas discuter vraiment. Ça, c'est la première chose. Effectivement, bien sûr que des communications inappropriées sont très délétères, que ce soit pour les traitements, mais que ce soit aussi pour la prévention, le port des masques, le respect du confinement, etc. Enfin, toute information scientifique non validée, surtout affirmée de manière péremptoire, et délétère pour la science, mais aussi pour la société et pour la santé publique. Donc oui, la communication faite par des scientifiques, et alors c'est là que c'est assez difficile de savoir qui est un scientifique, qui ne l'est pas. Et effectivement, parfois, tout
et
médecin…
Et où est son expertise aussi?
Voilà, et où est son expertise? Et qui est là pour dire, attendez, ça c'est pas vrai? Où ça, c'est vrai. Et on voit bien que les communautés scientifiques, je pense par exemple les communautés de gens de maladies infectieuses, c'est difficile qu'ils se régulent entre eux en disant « Attendez, arrêtez d'écouter celui-là, mais vous devriez écouter celui-là. » Les gens ne peuvent pas faire ça et on n'est pas prêt à faire ça. Et donc ça, c'est assez compliqué.
Justement, c'est peut-être quelque chose qu'on aura appris de cette pandémie. Est-ce que tous les trois, vous voyez des solutions justement pour arriver à avoir un message de ça serait le rêve, mais peut-être Valérie Lallemand.
Oui, sur la notion de débat, je pense que c'est tout ce que vous dites, c'est extraordinaire, parce que c'est France et Eric, c'est exactement pour ça qu'on a, enfin exactement, en partie pour ça qu'on a construit le dispositif Jouer à débattre. Le dispositif Jouer à débattre, en un mot, ce sont des supports pédagogiques d'initiation au débat pour des jeunes à partir de 13 ans. qui s'articule autour de jeux de rôle pour les jeunes, pour motiver et pour faire comprendre des enjeux d'une question sur société précise. Des guides pour un animateur, de façon à ce que, justement, on puisse aussi outiller celui qui modère le débat. Et troisièmement, des ressources et potentiellement des rencontres et des ressources qui sont à noter, etc. Et pourquoi on l'a construit aussi pour ce que vous avez précédemment cité ? Eh bien, parce que dans le conseil d'administration de Jouer à débattre, il y a des personnes qui ont beaucoup pratiqué, si je peux parler ainsi, le débat public et notamment les conférences de consensus, différentes formes de débats qui existent et qui ont amené au constat il y a un certain nombre d'années, hein, au tout début des conférences de consensus sur les OGM par exemple, pour citer cette personne de notre CA qui nous témoignait cela, eh bien il s'était rendu compte que finalement il y avait une vraie difficulté à savoir faire face à une question qui vient de Mars quand vous travaillez sur la fourmi. Et donc, ça, effectivement, ça s'apprend. Et effectivement, il faut savoir commencer par bien déterminer quel est mon périmètre et ce que je vais pouvoir dire, ce que je ne vais pas pouvoir dire. Je rebondis aussi sur le « je ne sais pas », qui est très important, mais qui n'est pas suffisant. Parce qu'on ne sait pas, mais on sait quelque chose. Donc, c'est là où on peut arriver à dire ce que l'on ne sait pas tout en donnant une information parce que la personne en face, quand elle est profane, si je peux m'exprimer ainsi, elle peut être tout à fait experte d'une autre partie de la science qui n'est pas la nôtre, mais pour autant avoir un besoin de culture générale scientifique que l'on aura et qu'on pourra lui donner. Si je donne un exemple avec la musique classique, si vous êtes spécialiste de Bach, vous êtes quand même capable de parler de musique en général, même si on vous parle de musique classique et vous êtes plus sur la musique baroque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, voilà, on a des choses à dire, il faut pouvoir savoir se positionner et pour faire cet exercice, avoir des lieux de débat dépassionnés où on peut se tromper, où autant le public peut poser ses questions de façon maladroite ou de façon justement peut-être pas la bonne personne. Eh bien, autant c'est pertinent parce que c'est formateur pour lui, autant c'est tout aussi formateur pour les scientifiques. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des espaces de débat tranquilles, en fait, d'échanges, où justement on va. Ben, en fait, non, j'ai très mal répondu à ta question là. Et on le voit dans les débats qu'on organise avec des jeunes à la suite de nos jeux de rôle, notamment, puisque notre support de débat s'articule autour de jeux de rôle. Et bien souvent, quand on crée des rencontres avec des experts à la suite de ces jeux de rôle, quand les jeunes ont bien compris les enjeux de la question sans société posée, ils vont avoir des questions extrêmement pertinentes. Et c'est un lieu, extrêmement formateur pour tout le monde que de pouvoir rencontrer des experts à la suite de ce dispositif-là pour échanger encore une fois de façon dépassionnée et se tromper et avoir le droit de se tromper.
Bien sûr, ouais. C'est toujours finalement on revient toujours à la question du temps, arriver à prendre le temps et à recaler nos différents temps tous ensemble. Il nous reste à peu près une grosse vingtaine de minutes. J'aimerais prendre les questions du public, mais avant on va faire un tout dernier tour de table pour essayer de répondre à cette fameuse question qui nous anime ce soir. Qu'est-ce que la pandémie a appris à la science ? J'aimerais peut-être un avis général. Éric Tortenzo, qu'est-ce que ça vous évoque, cette grande question-là ?
Ben, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que cette pandémie nous a appris à être modestes et humbles face à une émergence de virus comme celle-ci. C'est-à-dire que il faut mener des recherches en bonne et due forme au fur et à mesure qu'on avance avec la pandémie. Il faut s'entourer des meilleures équipes pour monter les meilleurs projets et il faut communiquer de la façon la plus appropriée possible envers le public. Il faut essayer de ne pas voilà, s'exciter autour de certaines questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et attendre les résultats des recherches. Donc, je dirais qu'on a appris que la communication était un enjeu majeur autour d'une pandémie, vraiment. Voilà, ça a été plutôt mal fait jusqu'à présent de la part de toute notre communauté, etc. Donc, il y a vraiment des progrès à faire et on y travaille. Il faut également qu'il y ait un lien fort entre les décideurs de santé publique, les politiques et les scientifiques, et que chacun comprenne le travail de l'autre pour voilà, avoir une communication fluide et pas une attente déraisonnée de certains résultats. Ça, je pense que c'est important aussi. Il faut, ce qu'on disait, avoir un temps qui est différent pour la recherche. Voilà ce que je dirais un petit peu en global sur la question.
France Mantré.
Alors, moi, ce que nous a énormément appris, c'est effectivement la capacité quand même des scientifiques à se mobiliser tous ensemble. Il y a vraiment eu une énergie incroyable. Vous me disiez tout à l'heure comment on fait pour tenir, et non seulement sur le court terme, mais sur le long terme, de personnes qui ont vraiment dédié leur vie actuelle à travailler sur ce virus, les médicaments du virus, etc. Ce que ça m'a appris beaucoup, nous a appris, c'est la nécessité de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que, comme je le disais, on avait ces réunions régulières avec des gens qui sont tous des scientifiques, certes, mais vraiment de compétences différentes et savoir s'écouter les uns les autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas une communauté scientifique toute seule qui peut adresser l'ensemble des questions que nous pose cette pandémie. Bon, moi qui suis de la formation santé publique, parce que les biostatistiques font partie de la santé publique, tout d'un coup, quand même, je pense que maintenant, tout le monde sait ce qu'est un épidémiologiste, qui est un mot qui était un espèce de gros mot avant. Donc, l'importance de l'épidémiologie et des modélisations mathématiques, qui est ma formation initiale, pour faire des prédictions. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose que la pandémie nous avait appris. Mais je suis d'accord aussi avec Eric qu'il y a vraiment eu la difficulté de la communication, des temps de la recherche par rapport au temps de la communication et par rapport au temps des politiques. Et qu'effectivement, les scientifiques et les chercheurs ne peuvent pas répondre à toutes les questions politiques. Et donc, peut-être qu'il manque, c'est ce que tu disais un peu, Eric, hein, des médecins de santé publique, des organes qui digèrent les résultats scientifiques pour les communiquer aux politiques. C'est peut-être un peu le rôle qu'a eu le conseil scientifique. Mais on... Voilà.
C'est vrai, on a l'impression que les scientifiques et les politiques ne parlent pas toujours la même langue.
Ah, pas du tout. Pardon.
Et vous, peut-être, Valérie Lallemand, pour conclure notre table ronde.
Je crois qu'on a vu justement l'enjeu de la communication, mais la communication est un enjeu parce que justement, il faut, en dehors, encore une fois, des périodes de crise, construire des espaces de dialogue. Et c'est que parce qu'on est prêt à ce dialogue, parce qu'on s'est rencontré les scientifiques et les publics, que l'on pourra aborder une situation de crise de façon sereine. Donc, le rôle de la médiation, encore une fois, c'est-à-dire du dialogue dans les deux sens, des espaces d'échange, et peut-être aussi renforcer cette distinction et cette compréhension fine. Vous parliez d'interdisciplinarité, donc des différences des différents secteurs scientifiques, médicaux, etc. Mais je dirais, j'irais même un cran plus loin sur l'interdisciplinarité et comment, dans des questions qui sont non plus celle des controverses scientifiques, mais celle du débat public, c'est-à-dire de l'impact dans la société, comment il faut intégrer des dialogues interdisciplinaires de façon même plus large. Mais encore une fois, cela, il faut apprendre à le faire en dehors de la crise, parce que demain, on aura une autre crise, on sait tous laquelle ou lesquelles, et on sera de nouveau à courir derrière parce qu'on saura de la même façon pas faire. Donc, ce sont des compétences à développer pour les publics au sens pluriel et pour les scientifiques au sens pluriel aussi, en dehors des crises.
D'accord, on va maintenant passer aux questions. J'en ai la première, elle est de Serge. je la retrouve sur le chat, qui nous dit « Bonjour, il y a beaucoup de personnes testées positives et qui sont asymptomatiques. Y a-t-il de la recherche pour comprendre cette réponse immunitaire ?» Éric Tortenzio, peut-être.
Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet majeur, puisqu'on considère, alors on n'a pas des chiffres exacts hein, sur la proportion d'asymptomatiques dans cette maladie, mais suivant les études, on a une fourchette entre 20 et 50% de personnes qui seraient sans symptômes, mais qui auraient été infectées par le virus. Alors effectivement, ça pose des questions sur la réponse immunitaire, et c'est un des sujets qui est actuellement en cours. Donc, il y a beaucoup d'études sur le système immunitaire, la réponse T, la réponse B, les anticorps neutralisants, etc. Donc oui, on commence à comprendre un petit peu la réponse immunitaire. Et sur le sujet des asymptomatiques, il y a des études en cours. Mais voilà, donc on n'a pas de résultats pour expliquer pourquoi certains font des formes asymptomatiques alors que d'autres font des formes plus symptomatiques ou voire sévères. Il y a quelques pistes. C'est probablement multifactoriel. Il y a probablement des facteurs liés à l'hôte, liés au virus, peut-être des facteurs génétiques. Voilà, donc c'est en cours. On n'a pas de réponse arrêtée, mais voilà, il y a des pistes.
Non, je voulais juste te dire qu'effectivement, donc sur le travail, sur la réponse immunitaire, il y a effectivement des pistes génétiques, des pistes immunologiques. Mais je voulais aussi rappeler qu'en fait, au départ, la recherche s'est focalisée sur les patients hospitalisés et que la recherche sur les patients dits ambulatoires ou en ville est beaucoup, beaucoup plus difficile à organiser et moins habituelle. Et alors, en particulier chez les patients asymptomatiques, parce que c'est très difficile de les trouver, puisque par définition, ils n'ont pas de symptômes. Donc, je pense qu'on a pris pas un retard, mais c'est une des leçons que nous a appris peut-être aussi cette pandémie, c'est qu'il ne faut pas que travailler sur les patients hospitalisés, qui sont très importants, parce que ce sont ceux qui sont graves et ceux qui vont mourir, mais qu'effectivement, tout le volet de la recherche sur les patients pas graves est très important et est en train de se mettre en place.
Une deuxième question. Marie, cette fois-ci, y a-t-il d'autres virus qui donnent autant de personnes asymptomatiques? Et pour aller plus loin, est-ce une stratégie du virus pour se propager, s'étendre plus facilement? Qui est-ce qui se sent de répondre?
Alors, s'il y a d'autres virus qui donnent autant de personnes asymptomatiques, la réponse est oui, il y a beaucoup de virus. Que ce soit des virus à transmission aérienne ou voire des virus à transmission vectorielle. J'ai un exemple comme la dengue, par exemple. On a des fourchettes de personnes asymptomatiques qui peuvent aller jusqu'à 60-70%. Donc, oui. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie propre du virus pour se propager? C'est une bonne question. Mais je crois que la réponse est beaucoup plus complexe et elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le multifactoriel et pourquoi certains font des formes sévères, modérées, mortelles ou asymptomatiques. Donc c'est un enjeu voilà, de réponse immunitaire qui est différente et c'est encore vraiment pas bien compris dans la plupart des pathologies avec des formes asymptomatiques prépondérantes. Ouais.